Une personne sur 25 au Canada souffre de ce trouble alimentaire qu'on appelle la dysphagie, qui touche des milliers donc de personnes, et souvent c'est en silence qu'elles vivent ça. Porter à la bouche, croquer et surtout avaler, ce geste que nous faisons des centaines de fois par jour, sans même y penser, devient un combat quotidien pour ceux qui vivent avec ce qu'on appelle de la dysphagie. Le mois de juin marque désormais officiellement la toute première édition du mois de la sensibilisation à la dysphagie au Québec et au Canada. Pour en parler, je reçois France Grondin, fondatrice de Dysphagie Canada, et Amélie Lacroix, qui a plusieurs titres, mais je vais la présenter comme nutritionniste et conseillère cadre aux pratiques professionnelles chez Santé Québec. Mesdames, bonjour.
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 Amélie, je vous ai pas mal présenté, j'espère.
Ben non, c'est parfait. Merci.
Alors, je vais commencer par France. France Grondin, pourquoi fonder un organisme qui, comme ça, le Dysphagie Canada?
Parce que ça n'existait pas ici. Contrairement en Europe, aux États-Unis, ça fait plusieurs années que le mois de juin est dédié à la sensibilisation, à la dysphagie. Et pour briser l'isolement des personnes dysphagiques, sensibiliser la population.
Ouais.
Je vais laisser la parole à Amélie.
OK. Amélie, allez-y. Donc, c'est quoi concrètement la dysphagie?
Ben, la dysphagie, ça se résume en fait à la difficulté à avaler, mais vous l'avez déjà bien annoncé là, tout à l'heure. Donc, une personne peut avoir de la difficulté à avaler un solide, un liquide ou les deux aussi
Mais qu'est-ce qui cause ça?
À la fois. Ce qui peut causer ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dysphagie, c'est pas une maladie en soi, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme.
Okay.
C'est un symptôme d'une condition qui est en arrière de ça. Ça peut être une condition quand on s'est fait peut-être juste au niveau d'une pharyngite, par exemple. Ça, c'est pas très grave, c'est temporaire. Tu sais, c'est une infection, ça peut revenir, mais c'est quand même une difficulté à avaler. Mais il y a des conditions qui sont plus permanentes, qui sont plus longues et qui vont malheureusement se détériorer aussi dans le temps et qui vont causer de la dysphagie. Donc, on peut parler de la sclérose en plaques amyotrophique ou la sclérose en plaques. On peut parler de Parkinson, d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle là, AVC. Ça peut être aussi l'Alzheimer. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, puis bon, tout ce qui est cancer de la gorge, de l'ORL, fait que des fois, on a ce symptôme-là qui va peut-être malheureusement se détériorer ou du moins se stabiliser quand c'est quelque chose d'un peu plus permanent. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la dysphagie, ça n'a pas d'âge, hein. C'est un peu comme le cancer, ça peut aussi toucher les enfants, ça peut toucher les adolescents, les personnes plus âgées, les adultes. Par contre, c'est sûr qu'il y a des conditions qui sont associées un petit peu plus au vieillissement. Donc, voilà, en gros, c'est cette incapacité-là à déglutir, à avaler. Ce que ça l'amène comme facteur, comme danger, là, ce que je dirais que c'est au niveau de l'étouffement. Bon, c'est sûr qu'on peut avoir un aliment qui reste coincé dans la gorge. Ça peut amener un risque de dénutrition et de déshydratation aussi, parce que pensez que quand on change nos textures, nos liquides, ben c'est moins appétissant un peu, c'est peut-être des fois une texture qui est purée, qui est une texture qui est hachée, donc on a peut-être un petit peu moins de plaisir, et puis et ça nous en prend un petit peu plus pour atteindre nos besoins aussi. Puis il y a aussi ce qu'on connaît peut-être un peu moins, la pneumonie d'aspiration qu'on appelle, c'est que tu sais, il y a des aliments, le tube digestif et les voies respiratoires sont assez collées.
Proche,
donc, oui, fait, tu sais, on appelle ça de passer dans le mauvais tuyau.
Oui.
Là. Fait que tu sais, des fois, ça peut aller dans les poumons. Sauf que pour une personne qui est en santé, qui a de la force musculaire, va en tout ça, on va être capable de faire ressortir ce petit aliment-là ou les liquides. Alors qu'une personne qui a une condition que je vous parlais tout à l'heure, mais un petit peu plus de faiblesse, donc ça, des fois, on appelle ça même que une pneumonie silencieuse. Ça fait que ça va aller tranquillement, silencieusement dans les poumons. Puis, ce que ça l'amène aussi, c'est le retrait social que Madame Grondin va aussi nous parler tout à l'heure. Donc, tu sais, c'est cette peur de manger en public parce que nos aliments ne sont pas de la même texture, on a moins de plaisir, on s'isole un petit peu. Donc, c'est les grands cinq facteurs là,
Oui.
que je vous dirais qu'il faut porter à l'attention.
Ben justement, Madame Grondin, est-ce qu'on pourrait peut-être vous demander de raconter un peu ce que vous vivez, vous, comme personne? Je comprends que vous êtes atteinte de cette condition aussi.
Ce qui me frustre le plus en tant que personne dysphagique, c'est qu'au moment où j'ouvre la télévision, on est inondé d'annonces publicitaires que Subway, les pizzas, et nous, on ne peut pas manger de ça. Tu sais, on mange d'abord avec les yeux. Et moi, mon conjoint n'est pas dysphagique. Donc, je cuisine pour une personne normale et pour moi qui est dysphagique. Et je fais quand même des épiceries. Mais là, moi, je suis une gourmande, donc j'arrive les épiceries et je veux tout manger. Mais je n'ai pas le droit. Parce que je suis à risque de pneumonie. Et ça ne me tente pas d'être hospitalisée.
Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui a causé votre dysphagie, Mme Grondin?
En fait, brièvement, en septembre 2022, je me suis rendue à l'hôpital pour passer une simple bronchoscopie parce que le pneumologue entendait un petit bruit des bronches et il y a eu une mauvaise manipulation. Et quand ils ont essayé la caméra, les cordes vocales se sont refermées l'une sur l'autre. Donc, ça a été l'arrêt respiratoire. Soins intensifs, bloqués aux urgences, qui devaient être temporaires, s'est avérée permanente. Par la suite, gastrostomie. Parce que manger purée, ça meurt fièvre. Vous voulez perdre du poids, mangez purée. Donc, moi, je mange purée, un petit peu solide, et la médication et mes suppléments par la bilaine. À l'aide d'une seringue, clé d'un tube, pour me garder en santé.
Wow. Je vais pas vous épuiser là, parce que je sens que c'est beaucoup d'efforts, mais on a abordé tout à l'heure l'isolement social auquel font face les personnes qui vivent avec cette condition-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tu sais, des fois, comme disait Amélie tout à l'heure, parfois les gens veulent pas sortir parce qu'elles ne veulent pas être vues en train de manger, tout ça. Comment vous vivez ça, France?
Ça fait 3 ans que je ne vais pas au restaurant, ni entre amis, ni avec mon conjoint. Les amis ont peur de t'inviter à manger parce que ils ne savent pas trop quoi cuire. Moi, de mon côté, j'ai pas peur de les inviter, mais mon cercle est fermé. Et je ne vois pas, je ne peux pas boire comme une personne normale. Donc, moi, je bois à l'ébauche parce que il n'y a pas de danger que ça aille dans mes poumons. Je peux boire un verre d'eau ou un verre de vin comme les personnes normales. Donc, je ne peux pas aller en soirée, aller dans un petit bistrot. C'est possible. Donc, c'est vraiment, tu te retrouves serein, pas vraiment de soutien. Et le monde a comme des craintes, des peurs. Et c'est normal, dans le fond. Parce que la dysphagie, il faut se comprendre, c'est méconnu. Le monde n'en parle pas. On ne veut pas. Donc, C'est un sujet qui est un petit peu tabou au Québec et au Canada. Et pourtant, au Québec, on est près de 500 000 pour diverses causes.
Ouais.
C'est quand même 60 pathologies causes et dysfonctions.
On va devoir conclure là-dessus. Je vais donner peut-être le dernier mot à Mme Amélie Lacroix. Il ne nous reste pas plus qu'une petite minute. Fait qu'allons-y pour une petite conclusion rapide. Oui.
Oui, je vais faire ça rapide. Donc, ben voilà, c'est que pour les personnes dysphagiques, en fait, quand vous pensez qu'il y a une condition qui vous amène un peu de la dysphagie, c'est sûr que d'en parler à votre médecin, à un ORL, ça va vous amener aussi à être capable de vous faire évaluer s'il y a une équipe interdisciplinaire qu'on appelle. Donc,
Ouais.
c'est constitué de nutritionnistes qui, pour l'apport, la sécurité de la déglutition, le choix de l'alimentation, parce qu'il y en a qui mangent par la bouche, d'autres par malheureusement un tube. Il y a l'orthophoniste, l'ergothérapeute aussi qui va vraiment y aller avec des mécanismes de réadaptation, renforcer la musculature et avoir des stratégies là, pour sécuriser aussi l'alimentation.
Donc,
ne soyez pas seul.
Ne restez pas seul, c'est le message de ce mois de la dysphagie. Puis d'ailleurs, il y a le livre aussi de Mme Grondin qu'on peut lire sur la dysphagie, sur son expérience à elle. On va devoir s'arrêter là-dessus, France Grondin et Amélie Lacroix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, ça a été un plaisir.
Après la pause, on va parler de musique classique et on va parler de cirque.